Liban, anatomie d'un pays déchiré.
La tragédie frappe encore le Liban. Petit pays au cœur d'un Proche-Orient qui s'embrase, enjeu des puissances régionales, fragilisé par ses divisions internes, le destin de la région s'y joue.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de relations internationales, Rassane Salamé.
Épisode 6, 2020. L'explosion du port de Beyrouth et bientôt, à nouveau la guerre.
Ce qui a causé le drame, c'est la corruption et c'est l'incurie. La présence même de cette cargaison de nitrate à cet endroit et pendant des années ne s'explique que par la volonté de quelques mafias locales de vendre ce produit quand l'occasion s'en présenterait. Et si les autorités ne sont pas intervenues malgré les avertissements qui lui ont été adressés, c'est parce que le pays est truffé de zones de non-droit. Rien de cela n'est accidentel, ni naturel, ni dû à la malchance. Amine Malouf, dans Le Point, le 14 août 2020. Rassane Salamé, on poursuit notre conversation, notre échange sur l'histoire souvent dramatique du Liban. Et dans cette histoire dramatique, cette explosion du port de Beyrouth, qu'a-t-il révélé cet accident de l'état du Liban, de sa classe politique? Êtes-vous d'accord avec Amine Malouf? C'est pas un accident, c'est pas naturel, c'est pas la malchance.
Il m'est difficile de ne pas être en accord avec Amine Malouf, puisqu'on a eu un itinéraire pratiquement commun depuis plus de 70 ans. Mais il a raison sur deux points importants. Il a raison d'abord que cette explosion est importante et même tragique dans l'histoire du pays, qui en a connu bien d'autres pourtant, parce qu'elle a détruit une bonne partie de la capitale du pays, parce qu'elle a terrorisé des gens qui n'avaient pas besoin de l'être après avoir été déjà plusieurs fois martyrisés, mais également qui a tué des dizaines et des dizaines, des centaines de Libanais et blessé d'autres. Mais il a raison sur deux points capitaux. Le premier, c'est que cela ne peut arriver que si le pays détenait ou contenait des mafias dont le profit est le seul moteur. Et des mafias qui font de l'argent non seulement sur le dos, mais sur la vie même de leurs compatriotes. Et ces mafias sont des mafias à la fois politiques, bancaires et autres.
Elles sont la cause ou la conséquence de la faiblesse de l'État ?
C'est concomitant, ouais. C'est-à-dire elles sont à la fois la cause et la conséquence de l'affaiblissement de l'État. C'est pourquoi il est dangereux pour les Libanais de continuer à dire qu'ils sont résilients, qu'ils n'ont pas besoin d'État. Et de ce qu'ils attendent de leur État, c'est uniquement qu'ils leur donnent un passeport pour voyager. C'est quelque chose de dangereux. Ils ont besoin d'un État et ils ont une soif, à mes yeux, insuffisante d'État. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des partis politiques qui luttent pour leur survie, que ce soit au Liban comme le Hezbollah, mais aussi en Syrie comme le régime d'Assad, qui interdisent au système judiciaire libanais de fonctionner naturellement pour savoir qui est le coupable derrière cette affaire du port de Beyrouth. Donc Amine met le doigt à la fois sur ces deux aspects, il a tout à fait raison de le faire.
Cet accident, ce drame, s'il faut employer plutôt ce terme-là.
C'est un crime.
Ce crime, si vous... D'accord, le crime.
C'est un double crime. Le crime de déposer des choses aussi
dangereuses, oui.
Dangereuses au cœur d'une population civile. Et c'est un crime de mal les entretenir. Et c'est un troisième crime parce qu'on interdit la poursuite du fauteur de ce crime.
Et dans un crime, il y a des victimes. 220 personnes vont perdre la vie. Plus de 6000 blessés et des tas de gens qui vont aussi perdre tous leurs biens, leurs appartements, leurs maisons, leurs commerces. Ça a effectivement été un drame terrible qui frappe un pays déjà très fragilisé. On est en août. En mars, le pays est en faillite. Il fait défaut sur sa dette. Comment ce pays, qui était quand même la Suisse de l'Orient, on s'en souvient, dans les années 60-70, devient l'un des pays pauvres du monde et en faillite, où il y a pourtant des très grandes fortunes? De l'extérieur, c'est un pays quand même étrange.
Il est étrange pour de bonnes raisons, parce qu'effectivement, les Libanais ont fait des fortunes, mais les Libanais qui dépendent de l'État ou qui vivent au Liban n'ont pas fait fortune, mais au contraire, ont perdu ce qu'ils avaient comme épargne dans les banques. 85% des épargnants qui ont perdu leur argent dans les banques ont moins de 100 000 euros de dépôt. Donc, il s'agit d'une grande majorité de classes moyennes et de petites classes qui ont perdu l'essentiel de leur épargne dans l'effondrement du système bancaire libanais. Et cet effondrement s'est fait parce que, précisément, la classe politique a pioché dans les tiroirs. C'est-à-dire la classe politique s'est acheté une espèce de fausse paix civile en subventionnant les produits de base, de telle sorte qu'elle pensait pouvoir calmer l'ire et la colère des classes les plus pauvres. C'est pourquoi il y a une lecture sociale du Liban qui n'est ni politique ni communautaire et qui est généralement laissée de côté par la plupart des historiens à tort. Or, il y a au Liban des pauvres, beaucoup de pauvres, et des riches, une petite communauté de gens extrêmement riches qui s'achètent des postes politiques ou au moins une immunité politique et judiciaire de la part d'un État qui est extrêmement généreux avec les éléments les plus riches de sa population et extrêmement indifférent à la grande masse de ses citoyens.
Et c'est dans ce contexte que le 7 octobre 2023, les attentats du Hamas en Israël vont être perpétrés. Comment ont-ils été perçus depuis le Liban? Je ne parle pas du Hezbollah, on en parlera après, mais par la société libanaise. Se sont-ils dit, à nouveau, ça va nous retomber dessus, à nouveau, nous allons être pris dans cette grande histoire qui ne nous concerne qu'indirectement?
Non, non. Les Libanais n'ont pas de réaction toute particulière, disons libanaise, à ce qui arrive. C'est un événement qui les interroge, les interpelle. Mais comment dirais-je, cette région du monde ne vit pas en état de paix depuis très longtemps. Et c'est pourquoi que cela arrive n'étonne pas les Libanais, pas plus que les autres. En réalité, c'est l'espèce de fausse paix qui a précédé cet événement du 7 octobre qui était un peu anormal. En ce sens que les Israéliens avaient acheté ou pensaient avoir acheté la paix au Liban Sud après 2006 avec la résolution 1701 et à Gaza en faisant un deal avec le Hamas, notamment en 2021. Mais en réalité, tout le monde savait que le feu couvait et qu'il pouvait éclater. Moi-même, je pensais qu'il allait éclater, mais plutôt en Cisjordanie qu'à Gaza, donc je me suis trompé d'endroit, mais je savais que la situation n'était pas normale et que, en fait, la société palestinienne bouillonnait quelque part. Je n'imaginais pas que ça se ferait à Gaza, mais j'imaginais que c'était imminent en Cisjordanie.
Est-ce que vous imaginiez que ça se jouerait presque un an plus tard au Liban?
Non, mais dès le 8 octobre, le Hezbollah a décidé de s'engager dans ce conflit. C'est important, mais c'est très difficile à expliquer à des gens qui ne sont pas de la région. La réalité, c'est que le Hamas est un mouvement qui a eu des relations tempestueuses avec le Hezbollah et avec l'Iran. Ce n'était pas un long fleuve tranquille. Mais en 2021, une partie du Hamas s'est entendue avec le Hezbollah et s'est entendue avec l'Iran, et qui lui ont accordé énormément de soutien, et notamment d'entraînement, et notamment d'armement, pendant cette période pour réussir ou tenter de réussir une espèce de défi à l'encerclement de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Mais sur l'ensemble, la relation était assez tempestueuse. Et le Hezbollah décide, dès le 8 octobre, d'engager une espèce de guerre de faible intensité contre les Israéliens pour envoyer un signal que le Hamas n'est pas tout seul. Donc, il décide de s'engager dans cette affaire. Il maintient l'illusion que du côté israélien, tant qu'il n'a pas dépassé une certaine limite, et il va tenter de ne pas dépasser ni une limite géographique dans le Nord Galilée, ni en tentant de cibler des cibles principalement militaires, il va tenter de garder cette guerre de faible intensité aussi longtemps qu'il pouvait. Mais peut-être il se trompait sur un point particulier, qui était le fait que les Israéliens n'attendaient que cela. Mmh. En réalité, entre 2006 et 2024, l'état-major israélien a préparé une guerre qu'il pensait inévitable avec le Hezbollah. Il voyait bien que le Hezbollah s'armait de plus en plus, avait peut-être réussi à construire un arsenal de 150 000 missiles de courte ou de moyenne portée contre Israël, et l'état-major se préparait. C'est pourquoi vous vous rappelez sans doute que tout premier jour après le 7 octobre, le ministre de la Défense de l'époque et le chef d'état-major ont dit « Même si le défi a été fait à Gaza, attaquons plutôt le Liban ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça a été exprimé par M. Gallant, ministre de la Défense israélien, dès le soir du 8 octobre de cette année-là, 2023. Et l'idée, c'était que l'armée avait déjà un plan pour le Liban, qu'elle avait peaufiné sur une période d'une quinzaine d'années, jour après jour, et que cet état-major pensait que la guerre avec le Liban était inévitable, alors qu'elle n'avait pas de plan pour un défi aussi, comment dirais-je, aussi radical de la part du Hamas à Gaza. C'est pourquoi, pour rétablir la dissuasion israélienne, la position des militaires, des généraux israéliens au premier jour de la crise était de dire « frappons le Liban ». Parce qu'au Liban, contre le Hezbollah, nous avons un plan déjà testé, peaufiné, renouvelé plusieurs fois et qu'on peut mettre à exécution demain. Mais à la fois le Premier ministre israélien n'a pas accepté cette thèse, mais également l'arrivée le quatrième jour de la crise de M. Biden en Israël a mis fin à cette thèse. Donc il y avait un risque contre le Liban dès les premières 24 heures de la guerre de Gaza.
Et ça, on le sait peu, mais vous êtes en train de me dire que c'est Biden qui a calmé les velléités libanaises d'Israël ?
Et Netanyahou lui-même n'était pas chaud. Mais les généraux israéliens y étaient pour. Parce qu'ils se disent que nous avons un plan contre le Hezbollah libanais, qu'on a peaufiné pendant toutes ces années, alors qu'on s'occupera de Hamas in due time, comme disent les saxophones.
Ouais, c'est-à-dire
le moment venu. Mais nous n'avons pas de plan. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand les Israéliens entrent dans Gaza, on a l'impression qu'ils sont aveugles, qu'ils détruisent à droite et à gauche, mais qu'ils n'ont pas véritablement un plan. Et des mois plus tard, on continue de dire quel est le plan israélien pour Gaza.
Revenons sur la société libanaise face à ça. Je reviens à la double négation de Georges Nakache des années 40-50. On la rappelle, hein, c'était un épisode précédent. Ni Occident, ni arabisation, mais c'est pas avec deux négations qu'on fait une nation. Est-ce qu'on a encore ces deux négations aujourd'hui, mais qui seraient un peu différentes ? Ça serait ni Nasrallah, ni Netanyahou. Mais est-ce que ça fait une nation à nouveau ?
C'est-à-dire que ne demandez pas aux Libanais d'être heureux ou malheureux si leur ennemi tue leur adversaire. C'est quelque chose qui n'est pas, comment, d'une facilité totale. Les Libanais ne font pas confiance à Netanyahou et n'étaient pas majoritairement en soutien à Nasrallah quand il a décidé de s'insérer dans la guerre syrienne en 2011 et dans la guerre de Gaza en 2023. Donc, ils avaient une vision entièrement décomplexée d'Israël, voyant en lui un allié impossible. Mais ils avaient une vision assez critique de Nasrallah qui a dépassé ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire le héros de l'évacuation par l'armée d'Israël du Liban Sud, en une espèce d'acteur régional qui voulait imposer sa volonté en Syrie ou à Gaza ou ailleurs. Donc il y avait de l'ambiguïté dans l'attitude à l'égard de Nasrallah, mais il y avait aussi une espèce de suspicion profonde à l'endroit d'Israël. Mais je ne sais pas si je résume ainsi une société qui est très fragmentée, mais c'est l'impression que j'ai.
Très fragmentée et très déplacée, parce qu'on a aujourd'hui des centaines, peut-être même un million de déplacés dans le pays.
Il y a le quart au tiers de la population qui a quitté ses maisons au moment où nous parlons.
Et on n'oublie pas aussi la diaspora libanaise. Est-ce que finalement, être Libanais, c'est être un exilé?
Écoutez, c'est vrai qu'un Libanais ne se sent pas entièrement chez lui dans son pays d'émigration, même s'il y a des millions de Libanais entièrement intégrés qui ont oublié leur origine, notamment en Amérique latine, où il y a déjà peut-être des citoyens qui font trois fois la population actuelle du Liban. Mais il est vrai que la première génération ne se sont pas vraiment détachés du pays qu'elle a dû quitter généralement par la force. Mais elles ne se sont pas non plus véritablement chez elles, parce que c'est un pays où les ingérences extérieures, loin d'être une exception, sont devenues le pain quotidien de la population.
J'ai une toute dernière question pour achever cette conversation que j'ai trouvée très fertile. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour vous, pour votre pays, le Liban? Ou est-ce qu'on doit être dans un déterminisme tragique à l'issue de cette histoire?
Non, non. Il ne faut pas être déterministe en politique, ni au Liban, ni ailleurs. Il faut être un pessimiste actif. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît la nature humaine et ses faiblesses, la vulnérabilité des constructions humaines, hélas humaines, comme dirait Nietzsche, que sont les États, mais qui est un pessimiste actif, c'est-à-dire qui continue néanmoins de vouloir éviter le pire. C'est du moins la devise que je me suis donnée tout au long de ma carrière.
dans le dictionnaire amoureux du Liban, Alexandre Nedjar raconte qu'il y a un miracle libanais. C'est ce pays entre l'Occident et l'Orient. Est-ce que c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui? Que ce miracle perdure et s'il disparaît, que le sens de cette disparition doit nous dépasser largement la région et concerner finalement peut-être nos consciences ou nos civilisations?
J'aime beaucoup Alexandre Nedjar, mais je ne suis pas un partisan de la pensée magique. Peut-être que je suis trop cartésien pour cela. Je pense qu'à l'heure que je vous parle, il y a du travail à faire pour les Libanais. Sur eux-mêmes d'abord. Parce que la reconstitution d'un État libanais ne se fera pas par une ingérence extérieure. Les extérieurs, la France y comprise, peuvent aider, peuvent encourager, peut-être peuvent financer. Mais la décision principale est une décision qui doit être prise par les Libanais. Et avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour Alexandre, je dirais que la pensée magique ne fera rien en cela. Qu'il faut pour cela du travail, de la détermination. Et quelque chose qui a un peu manqué aux Libanais tout au long de ces décennies, à savoir un meilleur sens de l'intérêt public. Les Libanais réussissent tant qu'ils sont sensibles et conscients de leur intérêt, mais qu'ils ne partagent pas suffisamment l'idée même de l'intérêt public.
Merci Rassane Salamé. Merci beaucoup. Liban, anatomie d'un pays déchiré, un podcast original de France Inter.